Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Certains ont plusieurs vies qui se succèdent, lui a plusieurs vies en même temps. Il est animateur sur M6 de plusieurs émissions, directeur général d'un réseau de 712 agences immobilières, rédacteur en chef d'un magazine en kiosque. D'ailleurs, il est un peu enrhumé en ce moment, on l'entend respirer assez fort au micro, et comédien. Alors, vous l'avez compris, il s'agit bien sûr de l'animateur préféré des Français, Stéphane Plaza, qui ne vend pas des biens, mais qui nous vend et nous veut du bien. La preuve, eh bien avec cette comédie signée Laurent Ruquier, comédie pleine de fantaisie et placée sous le sceau de la magie, qu'il joue du mercredi au dimanche avec Valérie Mérès et Jean-Philippe Janssen devant la salle comble du théâtre des Bouffes parisiens. La pièce a pour titre Un couple magique. Et franchement, voilà, l'époque a cruellement besoin d'insouciance, de rire et de magie. Bienvenue Stéphane Plaza dans cette émission.
C'est beau comme entrée. Merci. Là, regardez, je faisais une petite sieste juste avant de venir pour me reposer à fond.
Oui, parce que vous jouez matinée et soirée aujourd'hui,
voilà,
samedi.
Deux fois, donc il me faut beaucoup de force. Mais alors là, c'est un réveil en douceur et en beauté que vous m'avez fait.
Et ce n'est que le début. Alors Stéphane Plaza, vous dites « je suis plusieurs dans ma tête ». C'est plaisant, c'est plein de fantaisie d'être plusieurs dans sa tête. Mais comme chacun de vous a une activité différente, faut une organisation folle pour en fait pouvoir tout porter à bout de bras, non ?
Oui, alors c'est vrai, c'est qu'on pense que je suis pas organisé, mais en fait j'ai un planning qui est très bien serré et très bien organisé, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui doivent me parler, mais pas en même temps heureusement, et qui logent un peu dans ma tête. Voilà, c'est un bel appartement qui est bien rangé, ce cerveau, et effectivement, oui, j'ai plusieurs personnages, on va dire. En tout cas, je suis Gémeaux, j'ai une dualité, mais je dois être double Gémeaux.
Voilà, c'est démultiplié. Alors généralement, Stéphane Plaza, quand on vous demande ce qui vous pousse à accumuler toutes ces vies, c'est-à-dire animation, star sur M6, patron d'un réseau d'agences immobilières et puis comédien au théâtre et bientôt de nouveau au cinéma, on en parlera tout à l'heure, sans parler de votre magazine en kiosque d'ailleurs, bienvenue chez vous, et ben vous répondez « Ah, je me dis toujours à tort ou à raison que on sait jamais, je peux mourir demain ». Alors cette réponse-là, d'accord, on va l'écarter. Moi, ce que je voudrais, Stéphane, c'est la raison vraie de cette hyperactivité.
Je pense que j'ai des envies. On m'ouvre des portes et apparemment, les choses se passent plutôt bien parce que je fais les choses avant et je les prépare vraiment bien et ça fonctionne bien. Donc, on m'ouvre la porte une fois, deux fois et après, on me demande de continuer. Alors, quand ça se passe bien, on fait un projet et puis après, une fois qu'on est bien installé, on peut essayer d'en ouvrir un deuxième en continuant le premier. Puis, je sais déléguer aussi. J'aime être avec des personnes de qualité et donc je sais bien m'entourer, je pense. Je les paye peut-être bien aussi, hein, mais parce qu'on n'a pas, on a rien sans rien, mais en tout cas, et je sais dire merci, bravo aux gens avec qui je travaille quand ils font bien leur travail, et quand ils font pas bien leur travail, je sais bien leur dire, là, je resserre un peu les boulons, mais donc j'ai des belles fondations, et ce qui me permet peut-être de faire plusieurs choses à la fois.
Voilà, ils ramènent toujours tout à l'immobilier, et vous avez créé un genre, l'hyperactif déguisé en dilettante.
Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, je travaille énormément, pour chaque rendez-vous que je fais, j'ai une préparation, alors qui me permet d'être plus détendu, parce que je suis un peu, ça ne se voit pas, mais j'ai une angoisse au fond de moi. Quand je fais quelque chose, je veux le faire bien, et je suis un angoissé.
On pense que toujours.
Toujours un peu.
Aujourd'hui.
Aujourd'hui, toujours. Et j'ai toujours là, ça fait un mois qu'on joue par exemple au théâtre, j'ai toujours le trac, mais un truc où je me dis 5 minutes avant, mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Alors évidemment, une fois que je rentre, après je dis, tu vas rendre heureux les gens, tu vas pouvoir transmettre quelque chose à ta maman qui est là-haut, et tu vas être heureux sur scène, mais j'ai les 5 minutes qui sont terribles avant de monter. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là, Stéphane ?
Non, mais le théâtre, oui. Vous avez commencé dans l'adolescence.
Oui, mais là, je joue avec des gens qui viennent de province, qui viennent de partout, c'est plein, ils ont payé. Donc, il faut leur donner un spectacle de qualité. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et je travaille toujours encore au bout d'un mois. Parce que pour rester au niveau, j'ai toujours une prof qui m'accompagne partout, Catherine Lombard, que j'embrasse. Mais voilà, donc je ne m'endors pas sur mes lauriers, on va dire.
Bon, et puis cette pièce, elle est vraiment pleine de défis. Alors, cette comédie signée Laurent Ruquier, Un couple magique, qui, vraiment, je le rappelle, fait sale comble tous les soirs aux Bouffes parisiens. Vous dites que c'est une pièce de copain. En fait, le projet a vu le jour l'été 2020, alors que vous étiez parti en vacances avec Laurent Ruquier donc, et toute sa bande de potes. Jean-Philippe Janssen faisait partie du voyage. Et puis une après-midi, comme ça, au détour d'une conversation, Jean-Philippe Janssen et vous confiez à Laurent que franchement, vous adoreriez jouer ensemble sur une scène de théâtre.
Oui, en fait, on avait lu la pièce qui dormait déjà depuis 10 ans dans un tiroir, parce qu'il l'avait écrit pour lui et pour Isabelle Mergault.
Mais comment vous étiez tombé sur la pièce ?
Et moi, comme je devais lire beaucoup de pièces, il m'avait dit, tiens, j'en avais lu beaucoup. Et donc, je lui ai dit, regarde cette pièce que j'ai lue. Si tu arrives à l'adapter, Laurent, et à rééquilibrer les rôles, parce que je dis, je ne veux pas forcément le premier rôle. Je veux vraiment qu'on s'amuse, je veux vraiment qu'on soit entre copains. Je veux qu'on soit bon, mais j'ai envie d'avoir de la détente. Et que si on part en tournée, que ça se passe bien aussi. Et il a dit, écoutez-moi, si on peut faire un truc pour la bande, la groupe d'RTL et tout ça, moi ça m'amuse aussi. Et il m'a dit, j'ai une cinquantaine d'années, un peu plus, mais je dirais pas son âge. Il m'a dit, j'ai envie de m'amuser, je travaille beaucoup, donc si vous êtes prêts à relever le défi, moi je vais le relever. Et il nous a ressorti 15 jours après, être revenu, la pièce modifiée.
Donc lui aussi est hyperactif et travaille la nuit. Alors il est temps, Stéphane Plaza, de faire le pitch justement de cette comédie qui nous embarque dans un univers très très inattendu.
Très inattendu, le pitch est simple, c'est un magicien un peu ringard, Pierre-François Cadabra, que je joue, qui est très amoureux de sa femme, mais qui est vraiment un ringard, et il a un producteur qui a du mal à le vendre, qui a du mal à faire sale comble, et qui va proposer donc de remplacer sa femme qui travaille avec lui, parce qu'elle parle trop, et qu'ils ne sont plus du tout dans le coup, par... son stagiaire qui est aussi plus ou moins son petit ami. Et donc, Pierre-François Cadabra va inventer un stratagème pour conserver sa femme. Et il va falloir qu'il tienne ce stratagème.
Sa femme qui lui vole la vedette sur scène.
Voilà, oui.
Qui est très, très encombrante.
Qui est très encombrante.
Et fort bien jouée par Valérie Mérès.
Voilà, et voilà, donc c'est une histoire où il y a un décor un peu... où on voyage déjà rien que pour le décor. Et après, c'est un homme, un magicien un peu ringard, lunaire, touchant. Et en même temps, très amoureux de sa femme.
Voilà. Mais alors, tout ça, bon, on le devine, bien sûr, c'est plein d'une fantaisie bon enfant qui donne lieu à des scènes cocasses, mais même en provoquant les rires, le magicien que vous êtes, Stéphane Plaza, se doit de réussir ses tours. Et des tours de magie, votre metteur en scène Jean-Luc Moreau en a saupoudré une bonne dizaine tout au long de la pièce, dont certains sont quand même assez bluffants.
Oui, il y a des vrais tours de magie, certains que je dois louper vraiment et d'autres que je dois réussir et que je me suis très maladroit. Donc il a fallu que je travaille énormément aussi cette habilité pour réussir les tours ou pour bluffer certaines personnes, les personnes qui viennent, parce que c'est des vrais tours.
Alors, ce qu'il y a d'absolument extraordinaire. Et là, c'est l'histoire au cœur de l'histoire. Vous allez nous raconter tout ça. J'ai appris que, en fait, ces tours de magie, vous les avez répétés avec le plus improbable des professeurs qui soient, c'est-à-dire le père Alex, prêtre magicien. Ça n'est pas une blague.
C'est pas une blague, non. Il est à Montmartre, sur la place du Tertre. Il s'occupe de cette église-là. Et donc, non seulement moi, j'ai répété les tours de magie. Valérie, elle fait des changements en quick change. Donc, elle se change très, très vite. Et moi, j'ai répété aussi. Mais toute la troupe était dans l'église.
Oui, mais alors, attendez. Oui. Quand Laurent Ruquier vous a expliqué que toute la troupe allait répéter avec un prêtre qui était magicien, parce que il faut savoir qu'il assure ses offices, il dit la messe à l'église Saint-Méry, à Paris, dans le 4e. Il a créé des tours et des illusions, il a même par exemple créé le grand miroir magique du mentaliste Victor Vincent pour son spectacle Les Liens Invisibles. Et j'ai appris aussi que par exemple, quand il dort pas au presbytère, le père Alex, il fabrique des mécanismes de trucage, et il en a conçu pour la pièce Chapitre 13, qui a obtenu le Molière en 2019, de la meilleure création visuelle.
C'est dingue. Incroyable. Je pense qu'il a une double vie. Il a une passion qui est la magie. Et il a aussi, et il s'occupe aussi d'une église et de toutes les personnes qui vont dans l'église. Donc il travaille beaucoup. Et donc on a répété dans ce lieu mythique.
Mais vous aviez le droit de travailler dans une église ?
Oui, on a été sérieux. Attention, on a fait vœu de chasteté.
Certes,
dans les... On a fait vœu de chasteté. On a mangé l'hostie, on s'est confessé, on est ressorti très pur. Et surtout, écoutez, apparemment, on est protégé maintenant puisque la pièce fait sale comble. On se demande si je multiplie pas les gens comme les petits pains.
Voilà, exactement. Donc, Père Alex a conçu pour votre pièce un couple magique, des trucages, des mécanismes, mais le problème c'est quand même que vous avez la réputation d'être furieusement maladroit, Stéphane
Plaza.
Alors
c'est le problème, et là il m'a dit, non mais Stéphane, moi je ne peux pas faire que ça, venir réparer tes dégâts, donc je fais très attention maintenant, parce que je fais de la casse, et donc il retravaille sur quelque chose qu'il a déjà travaillé, mais oui, et donc il est venu voir la pièce, mais il me sermonne un peu maintenant.
Mais parce que le problème c'est qu'il faut réussir à jongler avec des contractions entre texte et numéro de magie.
C'est ça, et les déplacements aussi. Donc, c'est ça la difficulté, parce que il faut penser à son tour. En plus, c'est pas mon métier, donc il faut l'exécuter d'une telle façon et en même temps être naturel avec le texte, parce que c'est quand même le rôle, c'est un magicien, même s'il est un peu ringue. Il est magicien et il est drôle. Mais...
Bon, de toute façon, puisque vous êtes maladroit, oui. Même si vous ratez les tours que vous devez réussir, tout le monde rit.
Oui, de toute façon, c'était prévu un peu comme ça. Alors après, il faut en réussir quelques-uns quand même. Hein.
Quand même.
Voilà.
Bon, alors vous êtes cerné par deux phénomènes, Valérie Mérès et Jean-Philippe Janssen. Avec Jean-Philippe, vous êtes rencontrés, je crois, en 2014. Il galérait dans de tout petits cafés-théâtres. Il jouait devant à peine une dizaine de personnes. Et il paraît que si vous ne l'aviez pas encouragé... Bah, il aurait stoppé l'aventure.
Oui, je l'ai rencontré. En fait, il a fait une première fois l'émission Recherche Appartement. On ne se connaissait pas du tout d'avant.
Ouais.
Il a fait, donc, je lui ai trouvé un appartement. Et hélas, il n'a pas eu de crédit bancaire. Donc, toute la France entière et dans les avions ont su qu'il était endetté. Mais c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et comme il jouait et tout ça, j'ai été le voir dans une petite salle qui s'appelle le Paname à Paris, où il y avait 4 personnes. Et je lui ai dit...
Ah, c'est carrément 4.
Oui, 4 personnes, hein, dont moi, donc vous imaginez. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai rien à te dire, sauf que tu es touchant. T'as quelque chose, et t'as quelque chose que être touchant et sincère, c'est très rare, enfin c'est mon avis. Donc tu devrais continuer et persévérer, et je l'ai encouragé pour qu'il persévère.
Et ce que vous ne précisez pas par modestie, mais comme la bienveillance et la générosité des intéressés sont assez rares dans ce métier pour que je le précise, c'est que, d'ailleurs c'est lui qui le confie, Jean-Philippe Janssen. Quand vous lui avez dit, il faut absolument que t'insistes dans ce métier parce que tu es vraiment talentueux, vous lui avez dit... T'inquiète, je paierai ton loyer.
Je dis, t'inquiète pas, parce qu'il avait des problèmes. Tout ça, je dis, ce ne sera pas un problème, ne t'inquiète pas, on s'arrangera. Mais en tout cas, il faut absolument que tu n'aies pas de regrets dans ta vie, donc vas-y. Et voilà.
Alors, c'est donc sacrément émouvant, 8 ans plus tard, de jouer ouais. ensemble, n'est-ce pas, Stéphane Plaza. Mais l'autre chose, paraît-il, qui vous émeut, c'est que, alors, sur la porte de votre loge, au bouffe parisien, donc, est écrit le nom de Jean-Claude Brialy qui dirigea ce théâtre. D'accord, jusqu'à présent, c'est pas hyper étonnant. Ce qui est plus surprenant, c'est que votre maman, qui est toujours, bien qu'elle nous ait quitté, si présente dans votre tête et votre cœur, votre maman était amie avec Jean-Claude Brialy et elle jouait au tennis avec lui du côté d'Oléron.
Oui,
donc tout ça dégage des ondes particulières.
C'est incroyable, c'est qu'en fait ma maman a un golf miniature à Ronces-les-Bains qu'on a toujours, et elle a, il y avait un terrain de tennis juste à côté, et donc elle a joué plusieurs fois avec Jean-Claude Brialy, et donc pendant les vacances quand il venait quelques fois, donc ils se connaissaient, et donc c'est vrai que ma maman, quand elle est venue au théâtre pour voir À gauche et le fusible, il s'est passé une certaine émotion, et que maintenant qu'elle ne me protège de là-haut, moi je la vois encore sourire dans le théâtre, en tout cas le deuil, et c'est toujours très difficile à faire un deuil. J'ai toujours cette souffrance. Je pense que je réussis à faire le deuil de plus en plus parce que j'ai pas le choix. En tout cas, je me sens... Je ne veux plus... j'essaie de penser aux choses positives, même si la douleur est là. Mais je vois donc ma maman un peu dans le théâtre. Et ce qui est très, très bizarre, c'est que avant, je me protégeais, je me signais avant de rentrer sur scène. Et maintenant, je fais que mon signe... Je le remercie à la fin de la pièce et je lui envoie un message et je suis un peu en larmes au salut. Voilà, mais enfin... J'ai de l'émotion qui arrive tout le temps, mais je la vois un peu par là. C'est très bizarre à dire, on va prendre pour un fou, mais c'est comme si j'étais porté par quelque chose.
Ce garçon est absolument prodigieux. Je comprends pourquoi on l'aime et pourquoi les Français ont tant de raisons de l'adorer. Alors, cher Stéphane, ainsi donc, vous avez passé votre enfance dans le parfum des fleurs, au-dessus d'une boutique baptisée le Bouquet des Bergères.
Oui, c'est vrai. Une fleur parmi les fleurs, peut-être, mais en tout cas, oui. Je vendais même des fleurs le week-end. J'ai vécu, voilà.
C'était la boutique de votre maman.
C'est la boutique de ma maman, et après, mon papa a travaillé dedans aussi. Mais alors, c'était pas. Donc, j'étais toujours dedans, ce qui était pratique, parce que quand je sortais un peu le soir, comme j'avais les clés, j'arrivais toujours, sans le dire à mes parents, je prenais les bouquets, voyez-vous, et j'arrivais toujours les bras chargés, et je ne disais pas que c'était moi.
Mais oui, c'était formidable pour
c'était
courtiser,
formidable.
C'est-à-dire,
dès que j'arrivais quelque part, j'arrosais les gens de fleurs, vous voyez, je disais, oh, t'es trop sympa. Et en fait, ça ne me coûtait rien, ça coûtait à mes parents.
Chipier un bouquet avant de partir.
Voilà.
Mais dites-nous, vous étiez un enfant repérable, vous étiez de ceux qui marchent le nez en l'air, hors des clous, et puis n'enfant qu'à leur tête.
Non, très timide, très réservé.
Ouais.
Alors un peu lunaire quand même, plutôt à l'école, hein, mais très 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 rangé.
Bon, votre papa, Eh bien, il a fait une très jolie carrière de coureur cycliste sur route et surtout oui, sur piste, où il a souvent brillé puisqu'il a été champion de France et champion d'Europe de poursuite olympique avec les jeunesses populaires et sportives. J'ai vu qu'il a été sixième émérite aux 6 jours de Paris et puis il a même couru au Japon.
Pour la France, ouais.
Voilà, j'imagine qu'il aurait adoré que son fils prenne la relève. Mais vous étiez pas très doué sur un vélo, n'est-ce pas? Et surtout, vous n'aimiez pas ça.
Surtout, c'est un sport que j'aime bien regarder, mais j'aime pas pédaler forcément. Et j'ai fait tomber toute l'équipe une fois. Donc, parce que, en fait, mon papa pensait que je me levais et moi, je rentrais de soirée, voyez-vous. Et je n'avais pas fait l'école buissonnière, mais j'avais fait la demi-buissonnière. Donc, il me dit, t'es déjà levé. Et alors, je dis, bien sûr, parce que je voulais aller au vélo, mais en fait, je rentrais un peu de soirée, voyez-vous. Et quand je suis parti sur mon vélo, toute l'équipe a valdingué.
Parce que vous étiez complètement endormi.
Parce que c'était une descente, il pleuvait et que je suis pas à droit sur un vélo non plus.
Bon, mais en tout cas, vous tentiez pour lui faire plaisir de vous entraîner malgré tout, ou bien vous avez très vite renoncé et vous lui avez dit bon, papa, faut arrêter de rêver.
C'est plutôt lui qui m'a dit c'est pas pour toi ça. Voilà, j'en fais pour le loisir et voilà, mais c'est un sport qui est très compliqué, oui.
Bon, alors en tout cas, Stéphane Plaza, vous avez pour père vraiment un modèle de ténacité et d'enthousiasme, parce que votre papa, il a 90 ans. Il est toujours président du CSM Puteau, où il soutient l'équipe féminine du club, donc, qui compte, je précise, c'est pas rien ce club de Puteau, parce que parmi les membres, il y a Mélodie Le Sueur, championne de France et championne d'Europe du chrono. Il paraît que votre papa, il assiste toujours aux courses ?
Il assiste toujours aux courses. Ils ont gagné 3 fois la Coupe de France. Donc, il y a une vraie équipe féminine qui peut changer avec... Il y a des transferts, etc. Mais en tout cas, il est là et il s'occupe des jeunes pour essayer de les faire éclore. Et il aime bien le cycliste féminin maintenant, oui.
Impressionnant. Bon, vous, au lycée, vous faisiez pas trop d'exploits, n'est-ce pas ?
Non.
Au point d'ailleurs que le conseil d'orientation vous a un jour sommé de choisir entre croupier, assistant médical et agent immobilier. Alors, cherchez l'erreur, qu'est-ce que croupier et agent immobilier viennent faire autour de assistant médical ?
En fait, on m'a fait pour... c'était il y a bien longtemps, parce que j'ai un certain âge, et comme les études m'avaient rattrapé, on m'a proposé ces 3 choses-là, parce qu'il y avait une ouverture pour être secrétaire médical, donc le mot secrétaire me plaisait pas à l'époque, on n'était pas si ouvert d'esprit, donc j'ai refusé.
Voilà, médical, c'est très rigoureux, mais voilà. Croupier...
Croupier, c'est parce que j'aimais bien la nuit, déjà.
Ils avaient repéré ça.
Donc ils avaient repéré ça.
Et agent immobilier,
ils ont dit pourquoi pas. Et donc je suis parti comme ça. Alors, et j'ai eu une vraie rencontre avec l'immobilier, que ce soit le métier et l'architecture. Et je suis tombé amoureux de ce métier.
Bien sûr, et très très tôt. Mais vous allez un petit peu vite en besogne, parce que ce que vous avez fait assidûment pendant l'adolescence, c'est du théâtre. En suivant des cours au conservatoire de Levallois-Perret, puis au conservatoire de Neuilly. Vous avez même fait partie d'une troupe amateur. Alors là, vous étiez vraiment passionné.
Oui, c'était passionné, mais c'est un peu plus tard, en fait.
D'accord.
Oui, je l'ai fait...
Ça, c'est après le bac ?
Oui, mais le bac que j'ai jamais eu. Hein, mais moi, je l'ai fait quand j'ai commencé le théâtre et tout ça, quand j'avais 23 ans. Donc, je l'ai fait pendant longtemps, mais je travaillais déjà, oui. Ça me changeait les idées, ça me faisait vivre d'autres vies, et je le disais à personne, voyez-vous. J'avais les cours le soir et je rentrais plus tard, mais voilà.
Vous n'avez jamais eu le bac ?
Jamais.
Voilà. Ce qui prouve qu'on peut magnifiquement réussir.
Je dirais, vaut mieux l'avoir quand même et faire des études, mais à l'époque, en tout cas la mienne, on pouvait réussir en travaillant beaucoup et en étant autodidacte, mais s'il y avait le choix, vaut mieux conseiller de travailler.
Hein ? Bon, donc votre vie de jeune, de très jeune adulte, vous l'avez démarré aux alentours de 18 ans dans l'agence d'une cousine.
Oui.
Puisque ça faisait partie des 3 propositions, croupier, assistant médical ou agent immobilier. Et tout de suite, on a fait de vous un négociateur. Mais qu'est-ce que votre cousine avait repéré chez son petit cousin pour justement être...
Sylviane Agnolet m'avait repéré, en tout cas, dans le fait d'être... pas feignant, de vouloir travailler, de ne pas compter ses heures. Je le dis parce que c'est pas toujours le cas pour la jeunesse. Et en tout cas, ceux qui travaillent beaucoup et surtout avaient la hiérarchie en tête. Ça veut dire qu'il écoutait ses supérieurs, il a été là pour apprendre. C'est ça qu'elle avait repéré, que j'étais plutôt quelqu'un de sérieux malgré ce côté.
Mais à 18 ans, vous aviez une bouille de môme.
Oui,
donc,
mais il fallait bien que je commence quelque chose.
Certes, mais les clients vous faisaient confiance. Vous saviez leur parler.
Alors, un peu, vous savez, j'ai toujours eu l'écoute des gens. Donc, je savais écouter surtout. Et quand on écoute les gens, déjà, il y en a tellement peu qu'ils le fassent. C'est déjà un premier pas. Même pas si vous êtes jeune, les gens aimaient. Je prenais le temps d'écouter, de ne pas parler. Donc forcément, ça me facilitait la vie. Et j'avais la chance d'avoir une bonne mémoire, donc je retenais les choses qu'on me disait.
Et donc, vous avez très vite grimpé dans l'organigramme de l'agence de la cousine.
C'est ça. Alors, j'ai grimpé un peu, et puis j'ai surtout fait tous les métiers de l'immobilier. J'ai fait de la gestion, j'ai fait de la vente, j'ai fait de la location, j'ai fait du syndic. J'ai fait des boulots qui m'ont moins intéressé que d'autres, hein, parce que j'étais plus commercial, mais j'ai surtout vu comment marchait l'immobilier dans tous les domaines.
Et à la même époque, vous allez me dire si c'est vrai, comme Marthe Mercadier, qui était vraiment la reine du boulevard, vous avez présenté à des gens qui comptent dans le monde du théâtre, bah vous aviez deux vies bien distinctes. C'est-à-dire que le jour, vous étiez agent immobilier, comédien, le soir, sur la scène. Vos clients, ils savaient tout ça? Ils venaient vous applaudir parfois?
Non, parce que je jouais un peu comme ça, soit pour des œuvres, soit pour des associations. Mais c'est vrai que Marthe est même venue dans cette association me soutenir, etc., parce que c'était une amie et qu'elle m'emmenait. Donc, soit elle venait voir comment je jouais, soit elle m'emmenait voir Olivier Lejeune quand elle jouait. Elle m'ouvrait les portes comme une bonne amie qui avait un petit poulain ou qu'elle faisait faire plaisir à quelqu'un. Donc, je connaissais très bien Marthe, très bien sa fille, ses petits-fils et tout ça, oui.
Sauf que en 98, Stéphane Plaza, là le destin soudain s'en mêle et pulvérise carrément votre vie. Accident,
oui.
Un chirurgien qui aurait dû carrément être radié de l'ordre vous opère,
oui.
Et d'ailleurs il a disparu.
Oui.
Donc vous vous retrouvez après une opération affreusement mal faite au centre de rééducation pour sportifs à Cap-Breton. Et là, eh bien les spécialistes vous disent que on n'est pas sûr que vous remarchiez un jour.
Oui, en fait, je suis parti à ce centre grâce à mon papa parce que justement près d'ici, on m'a dit Stéphane, tu vas boiter tout le temps, tu vas pas sûr de remarcher. Comme mon papa était un grand champion à son époque, il a eu quelques ouvertures et j'ai pu rentrer dans ce centre. Et donc j'ai eu 8 opérations pour chaque année pour pouvoir consolider ma jambe ou remarcher. Donc ça change la vie aussi, oui.
Et vous êtes resté près de 8-9 mois dans un fauteuil roulant?
Oui, 6 mois avec des allers-retours, mais au moins 5 mois d'entrée avec un fauteuil roulant. Et même au début, quand vous passez par des périodes, je ne pouvais pas me laver ni rien du tout. Donc c'est des infirmières qui me lavaient, etc. Oui, c'était très compliqué. C'est très compliqué quand on... et d'ailleurs, on l'a bien vu, sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose.
Vous êtes passé à côté de la dépression?
Oui, pas loin, je pense.
Pas loin.
Pas loin, parce que on se sent... Quand vous n'avez pas la santé, vous ne faites plus rien. D'ailleurs, c'est un peu la leçon de tout ce qui arrive depuis 2 ans, hélas. Mais si on doit en tirer les conclusions, c'est il faut s'aimer soi-même, il faut aimer les gens qui sont autour. Et surtout, si la santé s'en va, on n'a plus rien.
Donc vous vous êtes fabriqué un mental d'acier pour la vie à cette période-là, à Cap-Breton.
Je pense que ça m'a forgé le mental, ça m'a forgé aussi le fait qu'il fallait être épicurien, qu'il fallait être responsable de ses actes, et en tout cas responsable de ses actes par rapport aux gens et à l'humain. Donc de bien se comporter et surtout avoir une mentalité de fer. Parce que quand vous prenez 8 opérations et qu'il y en a 7 qui ne marchent pas, c'est comme un autobus qui vous rentre dedans. C'est-à-dire qu'à chaque opération...
Mais on se dit quoi la 8e fois quand on entre au bloc?
On se dit est-ce que ça va marcher cette fois-ci ou ça va foirer? On se pose quand même beaucoup de questions. Alors on y va avec la joie, mais on doute après pendant toute la rééducation, parce que l'opération, et après il y avait 2 mois de rééducation à fond, donc il fallait avoir des nerfs d'acier pour aller en rééducation plutôt que partir en vacances. Et je commençais même à être à M6, donc déjà même les producteurs disaient, mais Stéphane ne va pas te faire opérer si jamais
vous étiez déjà à M6. Alors voilà, le destin, parce qu'il faut quand même qu'on suive une chronologie pour bien comprendre votre histoire. Hein, qui est très signifiante, qui est très édifiante. Le destin heureux après Cap-Breton vous attendait sous la forme d'un casting sauvage dans l'allée d'un salon immobilier quelques années plus tard. Alors Stéphane Plaza, vous souvenez-vous encore de la manière dont on vous a abordé, je parle de l'équipe de Réservoir Prod, la boîte de prod de Jean-Luc Delarue, ce jour de l'année 2005, alors que vous vous ennuyez à périr dans les allées d'un salon immobilier et que cette équipe, sans avoir prévenu personne bien sûr, faisait une sorte de casting sauvage pour trouver une personnalité extravertie susceptible d'animer un programme télé sur la recherche d'un lieu d'habitation. Vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont dit et fait faire ce jour-là?
Ah oui, je m'en souviens bien, parce que j'avais pris une mine la veille, donc j'avais fait un apéro un peu arrosé, donc j'avais des maux de tête. J'avais des maux de tête, parce que comme quoi, il faut pas faire tout, et ils sont venus, ils ont dit, on va vous prendre pour faire un casting sauvage, et il faut que vous quittiez le salon pour aller faire une visite devant toute la production, parce que pour Paris, il nous faut quelqu'un, on a des agents, mais pour Paris, on voudrait quelqu'un qui soit différent, et on pense à vous. Bon.
Vous avez songé à une blague ou bien...
Non, bah non, parce que c'est vrai que ça aurait pu être une blague maintenant que vous me le dites. Mais comme j'étais pas connu, je me suis dit personne vient me faire une blague comme ça. Mais donc j'y étais, j'ai fait. Alors ils ont filmé ma première visite, qui était une fausse visite.
Donc vous avez fait ça de façon détendue, avec votre fantaisie habituelle, avec ça saupoudré d'humour.
Voilà, avec une vraie fantaisie justement, parce que j'étais très détendu, j'avais pas de stress. Le stress, je l'ai eu après quand ils m'ont dit que j'allais être pris. Mais là,
vous avez attendu combien de temps la réponse avant qu'on vous dise ?
Ça a été le soir même.
Ils non, c'est
dit,
pas
oui,
vrai.
Oui, ils ont dit.
Donc vous avez été excellent.
J'ai été différent et plutôt pas mauvais. Voilà. En tout cas, je les ai fait rire et ils ont dit c'est vrai que quand on parle d'un projet immobilier, on va visiter des appartements. Sur le papier, c'était pas euphorique. Donc ils ont dit au moins il y aura des experts et il y en aura un qui est décalé aussi, qui connaît le métier, puisque ils sont renseignés comme quand j'avais plus de 18 ans de métier. Et lui, il a l'air complètement décalé et tout ça. Pourquoi on le tenterait pas? Voilà comment c'est parti. Donc je suis arrivé en joker un peu, voyez-vous.
D'accord. Mais alors le premier vrai tournage pour M6. Vous étiez en roue libre, vous avez imposé vos marques tout de suite.
Alors, j'étais dans les règles, mais en tout cas, je n'ai pas changé ni ma façon de m'habiller, ni ma façon de m'exprimer. Je n'ai pas utilisé leurs mots parce que c'était mon vrai métier que je connaissais déjà.
Parlez de leurs mots, c'est-à-dire les mots en fait des spécialistes de l'immobilier ou les mots que les gens de télé voulaient entendre dans votre bouche.
C'est-à-dire que quand une émission est produite, des fois, on vous dit c'est mieux de dire ça à la production. Et moi, j'ai toujours refusé parce que j'ai dit mais je ne suis pas dans la réalité. Si je dis ça, ça ne correspond pas à mon travail.
Donc et puis ils étaient venus vous chercher pour être différent, justement.
Exactement. Donc je dis, est-ce que vous vous connaissez en immobilier ? Non, je dis, vous me filmez. Moi, je ne vous demande pas comment vous me filmez. Donc laissez-moi parler de l'immobilier, parce que j'assume mon métier, que je veux différent et que, justement, il n'y avait pas une très bonne image de l'agent immobilier. Je dis, c'était un vrai métier. Donc d'une façon assez gentille, j'ai dit ça. Mais je dis, chacun fait son travail, c'est une équipe et moi, je fais le bien et après, on verra ce qui se passe.
Alors, justement, le succès a été immédiat. Mais j'aimerais savoir, Stéphane Plaza, à partir de quand vous avez senti que cette émission pouvait devenir la vôtre ?
Quand vous passez à la télé, c'est différent. Alors, et puis, c'est assez étonnant parce qu'il y a d'abord eu un prime, puis l'année d'après, 5 primes, puis 7 primes. Et puis, je sentais les gens commencer à me reconnaître un peu ou disaient « Ah, il y a une nouvelle émission ». Et même au début, c'était compliqué quand j'appelais pour avoir les vrais appartements. On me disait « Mais non, mais c'est de la télé, monsieur. » On ne me connaissait pas, on ne connaissait pas l'émission qui n'était pas ancrée. Et c'est vrai qu'au bout de 3 ou 4 ans, quand j'appelais les gens « Ah, vous êtes le monsieur de la télé, on vous aime bien, sympa ». Même les agences qui pensaient peut-être pas au départ que le projet allait exister étaient plus contents de m'avoir. Et que quand j'appelais, les gens me parlaient du programme. Donc j'ai vu qu'au bout de 4 ans ou 5 ans, j'étais rentré un peu chez les gens, chez les agents immobiliers, et que la profession montrait quand même un vrai travail difficile. Il y a beaucoup d'autres travails difficiles, mais je n'avais pas menti sur le fait de travailler. Voilà.
Alors, en même temps que grandissait votre notoriété, Stéphane Plaza, les émissions se sont multipliées, diversifiées, de recherche appartement ou maison à maison à vendre avec le fameux concept du home staging, ce relooking pour maison, et puis chercheur d'appart. Et puis un jour de 2013, surfant sur ces triomphes télévisuels, vous avez eu l'idée vraiment la plus judicieuse de votre carrière. Vous avez proposé à M6 d'ouvrir un réseau d'agences immobilières à votre nom. Vous aviez appris en fait que la chaîne se diversifiait en dehors de l'audiovisuel, c'est ça ?
Non, en fait, je savais qu'elle se diversifiait et je me suis dit, t'as un certain âge, t'as des choses. Donc en 2013, j'ai été voir la direction et ça a mis 2 ans pour dire le réseau où j'étais veulent ouvrir quelque chose avec mon nom. J'ai une certaine notoriété. Moi, je veux monter quelque chose à mon nom pour transmettre, pour donner mon savoir ou échanger avec des plus jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas ? Et il se trouve que ils avaient pas encore fait ça, en tout cas avec un animateur, même s'ils avaient ouvert un restaurant avec Cyril Lignac, mais après qui a été là, ils se sont impliqués. Finalement, ça a mis 2 ans, mais ils se sont impliqués.
Oui, parce que c'est une sacrée aventure. Pour monter intelligemment l'opération, il faut d'abord trouver les bons partenaires. Alors, vous êtes connecté à deux pros de l'immobilier, qui avaient 26 ans plus tôt créé le réseau La Forêt.
Exactement.
Et qui étaient disponibles. Et puis en 2015, alors, c'est un petit peu technique, mais M6 a investi pour 49% du capital de la tête du réseau, ce tandem de partenaires 25,5%, et puis vous, les autres 25,5% des actions restantes, en échange de votre image, de votre nom et de votre travail. Et aujourd'hui...
J'ai quand même été aussi investi dans ma première agence. Donc il y a eu aussi du financier dedans.
D'accord.
Mon nom a été valorisé, mais j'ai dû investir dans la première agence pilote.
Et aujourd'hui, le réseau d'agences Stéphane Plaza Immobilier regroupe 712
signés. En marche, il y en a un peu moins, mais parce qu'il faut faire les travaux, les boutiques, etc. Mais oui, elle regroupe 712.
Alors, j'ai appris que, en fait, votre réseau de franchise fait en moyenne 100 ouvertures de nouvelles agences par an.
80 à 100, oui, c'est ça.
Mais c'est énorme.
C'est énorme, il y a un engouement. Après, c'est une demande aussi, une demande des gens qui viennent, etc. L'immobilier est transparent, bienveillant, différent. Et pour l'instant, ça fonctionne bien, puisque non seulement on a plus de 700 agences, mais on les garde. Voyez-vous ce que je veux dire ? Donc ça veut dire que les gens donc, gagnent de l'argent. C'est des familles, on fait travailler à peu près 4000 familles, donc c'est pas rien. Et alors après, bah, évidemment, ça demande aussi de l'investissement.
Mais alors, comment, par exemple, vous triez, choisissez les franchisés pour qu'ils correspondent vraiment à l'esprit de la maison ? Parce que par exemple, j'ai appris que seule une candidature sur 8 était retenue.
En fait, on leur fait passer... alors après, c'est une rencontre. Ça veut dire qu'eux peuvent dire non et nous, on peut dire non. Déjà, c'est la première chose. Donc, c'est deux partenaires.
Mais généralement, ils vous sollicitent.
Oui, mais quand on sollicite, après, peut-être que ça ne correspond pas à leur attente. En tout cas, ils ont le pouvoir de dire non. On fait passer un test de 20 questions pour connaître la personnalité des managers, pour savoir s'ils sont complètement indépendants, s'ils peuvent travailler en équipe, s'ils peuvent supporter la pression. Et après, selon ces réponses, on regarde ce qu'on peut faire. Après, on regarde où ils veulent s'implanter, si l'endroit est bien, parce que nous, on a décerné des lieux d'implantation où il y avait du rendement.
Oui, c'est ça, bien sûr. Avoir,
parce que ça reste quand même une franchise, et comme toutes les franchises, il faut faire tant de ventes ou rapporter tant pour que le réseau puisse fonctionner. Et donc, on regarde donc la personnalité, le test, l'endroit où ils veulent s'implanter, si on n'est déjà pas implanté, et après, on se réunit, on regarde si on travaille ensemble ou pas.
Et en fait, les personnes qui signent avec vous ces franchises sont des gens qui parfois, je crois savoir que c'est à peu près un tiers,
oui.
Les vocations sont nées en vous voyant à la télé.
Oui,
c'est-à-dire qu'ils ne viennent absolument pas de l'univers
de l'immobilier. C'est un changement de vie. C'est un changement de vie, comme il y a beaucoup de personnes, peut-être vers une quarantaine d'années, qui essayent de changer de vie ou un peu plus. Et bien, il y a ce changement de vie. Il y a 30, voilà, c'est un tiers exactement. C'est un tiers d'agents immobiliers, un tiers d'indépendants. Donc un tiers d'agents immobiliers qui veulent transformer en manager, un tiers de réseaux complètement indépendants qui n'ont pas d'enseigne, qui veulent rentrer dans un réseau, et l'autre tiers, c'est un vrai changement de vie avec une volonté d'investir pour, comme un commerçant, pour faire autre chose.
Alors est-ce que vous allez, Stéphane Plaza, vous développer dans les dom-toms ? Est-ce qu'on va trouver Stéphane Plaza en Martinique ou pourquoi pas déjà plus près, en Belgique, en Suisse ?
Alors vous allez avoir l'info, non, en tout cas je vais étendre, j'aimerais bien aller en Polynésie, déjà, et d'une, parce que j'adore.
Parlez souvent de Tahiti. Hein.
Ouais, oui, en Martinique et en Guadeloupe, pourquoi pas. Et après, la Belgique et la Suisse, il faut voir aussi comment on peut fonctionner, parce que ce n'est pas les mêmes lois. Et est-ce qu'on peut... En fait, comment de fois on peut y aller et est-ce qu'on peut tenir le rythme ? Parce qu'il faut déjà comprendre, les lois sont différentes. Et après, il faut pouvoir aller former et pouvoir faire des allers-retours. C'est ça la difficulté. Mais normalement, on devrait ouvrir un peu plus, oui, dans toutes les villes que vous venez de citer ou les régions.
Vous parvenez à avoir un contact, bon, je ne vais pas dire fréquent, mais tout de même assez ponctuel avec les personnes qui ouvrent des franchises à votre nom ?
Alors en tout cas, j'ai la chance d'avoir un Instagram qui fonctionne bien, où ils peuvent me contacter, voilà. Il n'y a pas de commentaires, on ne peut pas me laisser des messages, mais moi je peux dire des messages, donc je peux rappeler les gens sur stéphaneplaza.off, donc qui est au particulier pour mes professionnels. Et après, oui, j'ai une bonne équipe et je suis bien entouré, et donc on me dit de rappeler ou de rappeler, certains ont aussi mon numéro, donc on se regroupe un peu, et par exemple, quand cette tournée va arriver après Paris, les villes qui truquent, évidemment, c'est là où je vais aussi en profiter, moi, pour aller voir un petit peu. Vous voyez, c'est bien organisé. Je vais donc aller voir mes partenaires, mais voilà, en surprise, pour ne pas leur dire le jour, évidemment. Sinon, ils préparent trop de soirées, donc j'arrive, je repars vite et je fais des photos. Voilà.
Enfin, en surprise, quand vous arrivez dans une ville, la région devient hystérique.
Mais ils n'auront pas l'heure, ils n'auront pas mon horaire de visite.
On va dire qu'ils n'auront pas l'heure. Bon, on disait au début de cette conversation que voilà, je reçois peut-être le plus grand hyperactif de France. Et ben, j'ai appris que le 8 avril 2021, vous avez lancé en partenariat avec M6 et Prisma Media votre magazine Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza, magazine qu'on trouve en kiosque et qui tire à plus de 200 000 exemplaires. Alors, il y a une approche éditoriale particulière parce que je crois que le contenu, il se voulait innovant.
Alors en fait, il y a déjà, donc c'est de l'immobilier et de la déco, il y a déjà des conseils pratiques. Donc des conseils, comment changer une fenêtre, comment changer une chaudière.
Parce que ce genre de magazine n'existait pas.
N'existait pas, en tout cas.
Sur le marché.
Et qui est très simple à lire, qui est très assez coloré. Et comme c'est un truc de déco, on l'a travaillé aussi avec Emmanuel Rivassou pour que ça soit agréable à regarder, avec un vrai papier. Quelque chose, je sais que c'est la mode d'Internet, mais moi je suis plutôt à l'ancienne, quelque chose qu'on peut conserver chez soi. Vous voyez qu'il y a des beaux magazines qu'on peut conserver et regarder. Et il y a des fiches techniques. Ça veut dire, voilà, est-ce qu'on peut changer un radiateur? Est-ce que vous pouvez changer une fenêtre de toit, un Velux? Comment vous changez une baignoire? Qui appeler? Comment on travaille avec des pompiers? Est-ce que les détecteurs de fumée? Tout ça est décrit et par des professionnels. Et voilà, je lis tout parce que ça parle d'immobilier. Je laisse la partie déco, évidemment, à Emmanuel et on essaie de faire quelque chose d'actuel. Et surtout, comme la vie peut changer et les lois peuvent changer, on essaie de donner des choses pratiques, puisqu'on est un peu plus chez soi en ce moment.
Ben oui. Voilà. Donc vous, voilà en tout cas, rédacteur en chef d'un bimestriel.
Oui, alors avec Prisma, qui a une belle équipe pour m'aider et qui fait un vrai travail de fourmi. Et donc, on travaille en collaboration, mais on a eu la ministre du Logement, on a des personnes
mais
d'autres réseaux.
Vous relisez, tout. Vous contrôlez absolument tout, de
oui.
la première à la dernière page.
Parce que, un, c'est mon nom. Deux, s'il y a une erreur, c'est mon réseau qui va prendre. Donc, en tout cas, sur la partie immobilière, je redis tout et je m'informe après sur la partie déco où j'apprends des choses.
Il est certain que jamais les Français ne se sont autant intéressés à leur lieu d'habitation. Hein.
C'est vrai, voilà. C'est pour ça que c'est sorti à ce moment-là.
Et c'est votre idée, une fois de plus.
Exactement.
Ce magazine.
Oui, voilà. Ben, on a eu le temps de réfléchir un peu.
Cet homme est incroyable. Bon, Stéphane Plaza, d'ailleurs, à quoi ressemble l'appartement ou la maison de vos rêves ?
Alors, je pense que la maison de mes rêves, c'est avec la personne que l'on aime.
Oui, mais alors, attendez, là, oui, bon, joli comme réponse, mais un peu facile.
Non, mais je vais détailler. C'est d'accord. Déjà avec la personne que l'on aime. Parce qu'après, on va avoir des très belles maisons. Et moi, je suis plutôt style ancien, avec du parquet, peut-être des moulures.
Du charme.
Et du charme. Et après, je fais un mix avec des meubles modernes, mais plutôt épurés. Donc, j'aime bien l'ancien et le moderne, mais plutôt aéré. Voilà à quoi ça pourrait ressembler la maison de mes rêves.
Et j'imagine que Stéphane Plaza vous l'a trouvé.
En tout cas, il a bien travaillé pour moi et maintenant je peaufine la déco.
Formidable. Stéphane Plaza, on évoquait tout à l'heure votre père, ancien champion cycliste, 90 ans, toujours bon pied bon oeil. Alors vous êtes très très proche de lui, bien sûr. Et il y a peu de temps, vous avez fait ensemble un voyage en Martinique qui a été un tel moment de complicité que vous avez eu le sentiment de redécouvrir votre père. Et peut-être même, en fait, de le découvrir. Comme vous ne l'imaginiez pas. Alors, entrant à Paris, et ben vous êtes dit, je vais l'emmener à Tahiti, mon père. Et ensuite, je vais l'emmener au Japon, mon père. Et on va filmer. Et on va faire une émission d'un genre nouveau qui permettra de retisser du lien avec nos anciens au travers des voyages et de la découverte de nouvelles cultures. Donc, ça, c'est le nouveau projet auquel vous vous attelez.
Oui, c'est des plazas.
Avec votre père.
Les plazas en vadrouille. Parce que mon papa,
c'est joli
c'est
comme
déjà
titre.
Parce que mon papa est un personnage et que je crois que l'intergénérationnel est important. Et que la famille, en tout cas moi j'y crois, est importante. Et que voilà, même s'il y a beaucoup de différences, je pense qu'on peut encore faire des choses avec différentes générations. En tout cas moi je l'ai vécu et je l'ai fait.
Il a dit oui tout de suite votre papa ?
Oui. L'avantage c'est qu'il avait déjà été dans la presse, déjà champion de vélo, etc. Donc il a dit oui. Et pour moi il était important, après avoir fait un deuil très difficile de ma maman, de ne pas louper mon papa aussi et d'être aussi proche, parce qu'il a 90 ans et je m'en suis quand même rendu compte, des fois on pense mais quand vous réfléchissez, 90 ans, même s'il est en pleine forme, c'est un certain âge. Et je voulais lui offrir pas forcément une émission, mais quelque chose qu'il voulait, c'est-à-dire un voyage en Martinique, parce que ça représente, c'est l'île où il a beaucoup été et qu'il adore. Tahiti, c'est l'île où il rêve d'aller et il n'a jamais été, donc je vais l'emmener. Le Japon, c'est là où il a représenté la France,
voilà,
pour gagner une médaille.
Pour des courses.
Donc je voudrais le ramener là pour qu'il se trouve. Et l'ultime épisode de ce Plaza en vadrouille, je pense que ça sera l'Espagne, parce que il est d'origine.
C'est le pays d'origine.
C'est le pays d'origine, que moi, je n'ai pas connu ma grand-mère espagnole qui est décédée là-bas, près de Séville, et j'ai des danseuses flamenco, des cousines, etc. Je vais emmener mon frère pour finir, pour faire quelque chose de ma famille. Alors, après, le projet, normalement, va être pris, mais même s'il n'est pas pris, je le ferai pour mon papa et pour
c'est
nous.
C'est-à-dire que, bon, j'imagine qu'M6 est intéressé, bien
très
sûr.
Très intéressé, à 95%, voilà. C'est
bon,
fait.
Bon, et si à 5%, ça capotait, vous feriez ça pour une plateforme
Doute une plateforme, mais en tout cas, et sinon, déjà, j'aurais embelli mon cœur et le cœur de mon père.
Mais vous avez pris les billets pour commencer les tournages ?
Martinique, on est déjà en boîte et je suis en montage. Donc j'attends maintenant pour savoir 17 juillet, j'arrête. Donc, sans doute, au mois d'août ou début septembre, Tahiti. Et parce qu'il ne faut pas trop traîner non plus. Et lui, maintenant, il veut repartir.
Votre papa, il va démarrer une carrière de vedette de la télé à 90 ans.
Il va me prendre la mienne.
Attention.
Mais en tout cas, je trouve que c'est important parce que moi, j'ai passé 13 jours sans interruption, 24 heures sur 24. Et quand je suis parti, on a dit, Steph, tu n'as pas de temps, tu vas peut-être pas supporter ton papa. Et lui, on lui dit pareil. Mais en fait, c'est comme une osmose. Vous savez, c'est deux êtres qui ont vécu, qui n'ont plus rien à se prouver l'un à l'autre et qui se sont aimés, mais qui n'ont pas besoin de briser la glace.
Puis,
mais on s'est redécouverts.
Loin des lieux habituels, on se dit peut-être des choses qu'on n'oserait pas se dire.
Exactement, parce
d'ordinaire.
Exactement, parce qu'on n'est pas pris par la folie, en tout cas moi, par la folie de mon travail, etc.
Donc il y a eu plein de séquences très douces comme avec des confidences.
Quelques larmes de Stéphane Plaza lui-même, parce qu'il est touché aussi, voyez-vous. Et en tout cas, c'est un beau moment. et mon souhait, c'est de montrer que la famille, c'est important, et que même si on a beaucoup de différences d'âge, et que même si des fois on dit « il me répète 100 fois la même chose, c'est rasoir », et c'est important de rester près des gens qu'on aime.
Donc, les Plaza en vadrouille.
Les Plaza en vadrouille,
vous l'avez. Voilà, donc on attend déjà le programme. Alors, cher Stéphane, tous les ans, il y a le fameux sondage OpinionWay qui établit deux fois par an la liste des personnalités préférées des Français. En juin dernier, vous êtes arrivé numéro 1 des animateurs et en décembre, bien sûr, vous étiez à nouveau numéro 1 des animateurs. Ça indique, en tout cas ça suppose une notoriété qui tout de même, si c'est très très agréable d'être ainsi acclamé, une notoriété qui au quotidien quand même, que vous alliez chez le dentiste ou au marché, peut parfois, je dis bien parfois, être un petit peu encombrante. Mais bon, vous aimez ça être célèbre, Stéphane Plaza?
J'ai pas le choix maintenant. Attends, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, je ne savais pas l'ampleur que ça allait prendre. Non mais voilà, je veux dire. Donc maintenant, c'est soit je suis célèbre, soit on dira il est un has-been, ou il est encore dans la télé. Donc j'ai pas le choix, donc j'en prends parti.
Ça vous a vraiment dépassé à un moment?
Complètement dépassé.
Complètement
dépassé. C'est-à-dire que à un moment, on disait Stéphane, waouh, il est connu, et puis d'un seul coup c'est Plaza, et puis d'un seul coup c'est dès que je prononce, c'est ma voix qui est célèbre, c'est le truc, c'est ma démarche. On a porté quelques masques, on me reconnaissait même à ma démarche avec un masque, ou c'était mon scooter. Donc oui, ça m'a complètement dépassé. Mais après, je n'oublie pas pourquoi je suis célèbre, c'est parce que des gens que je rencontre, et c'est eux qui regardent la télé. Donc à partir du moment où je vais chez le dentiste, où je suis en retard, où je prends un train, je fais le choix de m'arrêter de faire un selfie. Et si je suis de mauvaise humeur parce que j'ai des soucis, je ne le montre pas à la personne qui s'arrête, parce que si elle me demande quelque chose, c'est qu'elle est contente de me voir. En tout cas, moi, on a plutôt le sourire quand on me voit. Et donc, je prends du temps, pas toujours une heure, mais je prends un petit peu pour faire un selfie ou pour faire quelque chose, parce que c'est grâce à ces personnes qui me regardent que je suis et que je peux faire tout ce que je souhaite. Et c'est grâce à eux que je suis là-haut.
Voilà. Il est chic, ce garçon. Bon, alors revenons à la pièce signée Laurent Ruquier et baptisée Un couple magique. Pièce que vous jouez du mercredi au dimanche avec Valérie Mérès et Jean-Philippe Janssen devant la salle bourrée à craquer des bouffes parisiens. Alors cette pièce, Laurent Ruquier s'est amusé à l'écrire en songeant à ce qui se passerait si l'assistante d'un magicien, censé simplement détourner l'attention du public pendant qu'il fait ses tours, et ben si cette assistante en faisait trop au point de lui voler la vedette. Et donc, vous nous l'avez raconté tout à l'heure, c'est le début du pitch, voilà que votre manager se dit « Ah, mais alors je pourrais peut-être la remplacer par mon petit ami ». Tout ça va créer des imbroglios. Il faut aller au bouffe parisien. Mais dites-nous, cette pièce donc, qui est pleine de fantaisie et si cocasse, vous allez la jouer jusqu'à quand? Jusqu'à l'été?
Alors, minimum. Minimum jusqu'à l'été.
Et après, en tournée?
Et après, je reviendrai à Paris, je pense. Ce qui est important, déjà, c'est qu'on a aussi deux autres comédiens qui sont des acteurs et qui ont un vrai rôle, qui est Brigitte Westley, qui était la chanteuse de Maya Labelle, cette belle chanson. Et Sébastien Pierre, que je connais, qui a joué beaucoup. Et ma décision aussi de prendre la pièce, elle est très importante pour moi, c'était pour être sous la houlette et la baguette magique
de Jean-Luc
de
Moreau,
Jean-Luc Moreau, qui est quand même un homme extraordinaire, qui a fait beaucoup de boulevard, qui a eu un Molière, qui a été beaucoup nominé. Et pour moi, c'était un honneur d'avoir une pièce de Laurent Ruquier, d'avoir aussi Jean-Luc Moreau qui me dirige et qui prenne beaucoup de temps pour moi, parce que ça fait 2 mois où on est collés ensemble, et une vraie rencontre comme il est gémeaux comme moi.
Et il paraît que c'est lui qui a insisté pour que la pièce soit truffée de tours de magie.
Exactement. Donc vous voyez, c'est
parce que c'était pas écrit ainsi au départ.
C'était pas écrit avec des vrais tours de magie. Donc il y a, voilà, donc il y a une vraie rencontre et une vraie ouverture de Laurent Ruquier, de Jean-Luc Moreau et de moi-même pour travailler ensemble. Et après, j'ai eu la chance que Valérie Mérès dise oui aussi et on travaille. Voilà. Donc pour moi, c'est que du bonheur et en plus quand ça fonctionne et on rigole beaucoup sur la scène et en dehors de la scène, le téléspectateur, parce que j'ai rarement vu dans un théâtre des spectateurs qui fassent une hola. C'est ce qui arrive de temps en temps, tellement qu'ils sont décontractés, ils sont ailleurs, vous voyez ce que je veux dire? Et ça me rassure et ça me fait du bien. Et surtout, beaucoup de personnes viennent pour la première fois au théâtre, qu'ils soient petits ou grands, de faire découvrir le monde du théâtre à des personnes qui n'auraient pas forcément été au théâtre parce que ce n'est pas la troupe de Roland Ruquier qui joue ou Stéphane Plaza. Ben moi, je trouve ça beau.
Bon, ce garçon est à consommer sans modération. Bon, là, on parle théâtre.
Oui.
Mais ensuite, Stéphane Plaza, on va vous voir au cinéma dans une sorte de Point Break à la française. Alors, racontez-nous. Alors, c'est complètement fou, ça.
C'est complètement fou. Alors,
parce que Point Break, c'était Keanu Reeves.
Bien sûr. Donc, Keanu Reeves et Patrick Swayze. Donc là, c'est sur du kitesurf. C'est un projet.
Mais vous allez faire du kitesurf.
Alors, j'aurais rêvé qu'ils me prennent pour le champion du monde, mais apparemment, c'est des vrais champions du monde qui vont être sur le kitesurf. Et donc, ils vont raconter leur vie. Le film est écrit. Il devait se tourner normalement septembre, là, dernier.
Oui. Oui.
Donc là, tout a un peu chamboulé avec ce qui nous est arrivé. Donc, si le financement et les financements tiennent, je jouerai avec sans doute Frédéric Bell, Pascal Légitimus qui est dedans, et
wow,
d'autres.
Et en joli tout cas, c'est casting genre...
Après, voilà, j'attends la finition et que le budget soit vraiment tourné, mais le projet est acté. Et en tout cas, moi, j'ai dit oui pour ce film-là.
Là,
mais...
il va falloir travailler les muscles en salle.
Alors, moi, je ne peux pas tout vous dévoiler, mais je travaille beaucoup. Hein. Mais je ne serai pas nu dans ce projet. Je crois que moi, je vendrai seulement les surf. Hein.
Bon, Stéphane Plaza, d'ordinaire, on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous, Stéphane Plaza, vous dites, j'adore la formule, vous dites que le monde appartient à ceux qui rêvent tôt.
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est ma formule. Je pense qu'il faut rêver et essayer de réaliser ses rêves. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et après, bah, au moins, j'ai pas de... Voilà, j'essaye de croquer la vie à pleines dents et de rendre heureux les personnes autour de moi. Et je laisse les cons au bord de la route. Parce que j'en rencontre, pardon de vous le dire. J'en rencontre et tout ça, mais à mon âge, je ne perds plus de temps avec les cons. Voilà.
Formidable programme. Bon, Un couple magique, c'est la nouvelle comédie de Laurent Ruquier. Elle provoque tous les soirs des rires qui s'envolent jusque dans les cintres du théâtre des bouffes parisiens. Cher Stéphane Plaza, on se revoit très vite. Hein. À bientôt.
Très, très vite. Hein. Si ce n'est pas à la radio, c'est au moins pour une bouffe.
Eh ben voilà, allez, c'est fait.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.